Alors nous allons voir aujourd'hui ce qu'est le mystère de Dieu fait homme. Voilà, ça tombe bien, nous nous préparons à Noël, donc c'est tout à fait dans l'enseignement. Donc nous continuons notre cycle d'approfondissement, cycle 1, plutôt cycle fondamental sur les éléments du credo. Et là nous voyons, et le Verbe s'est fait chair, je crois en Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles, il est Dieu né de Dieu, lumière née de la lumière, vrai Dieu né du vrai Dieu, engendré non pas créé, de même nature que le Père, et par lui tout a été fait. Et aujourd'hui nous allons voir, pour nous les hommes et pour notre salut, il descendit du ciel. Par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie, et s'est fait homme. Voilà, alors il est bon de méditer. Ce qui fait l'originalité du christianisme, c'est le fait que le Christ se soit fait homme, que Dieu se soit fait homme. C'est quelque chose souvent que nous avons l'habitude, que peut-être parfois à Noël, nous le voyons un peu en mode, comment dire, gentillé. C'est-à-dire, c'est gentil que le Christ se soit fait homme, ça semble être un peu une image un petit peu féerique, et on oublie l'aspect choquant, l'aspect interrogatif, l'aspect de scandale, l'aspect aussi émerveillé, l'aspect très original, l'aspect presque impensable du fait que Dieu se soit fait homme. Je nous rappelle simplement que pour un juif de l'époque de Jésus, c'est impensable. Et pour un juif encore aujourd'hui, qui ne connaît pas le Christ, qui n'a pas fait l'expérience du Christ, vous savez qu'il y a des juifs qui découvrent le Christ, et qui, du coup, confesse Jésus-Christ Sauveur, Jésus-Christ Fils de Dieu, Jésus-Christ le Messie, voilà. Du coup, ils adhèrent à la foi chrétienne. Soit ils rentrent dans l'Église, soit des fois, par la pression qu'ils peuvent avoir, ils confessent en sous-sol la foi chrétienne et on les appelle les Juifs messianiques. Ils ont reconnu que Jésus était le Messie. Mais pour beaucoup de Juifs qui ne reconnaissent pas que Jésus est le Messie, le Fils de Dieu, le Sauveur des hommes, eh ben cette notion de la foi chrétienne reste un scandale. Comme à l'époque de Jésus. Parce que, aussi vrai, on prenait à l'époque de Jésus, on l'a pris pour un maître de sagesse, un rabbin, qui connaissait vraiment l'écriture et qui savait répondre avec l'écriture de manière, avec autorité, avec habileté, avec sens. On l'a vu aussi comme un thaumaturge, quelqu'un qui guérissait les malades, qui faisait des miracles, un exorciste. Donc Nicodème a dit de lui, dans Jean 3, mais tu viens de Dieu, sinon tu pourrais pas faire tous ces signes. Mais de là à dire que Jésus a le pouvoir de pardonner, ça a scandalisé des juifs parce que seul Dieu a ce pouvoir. Et donc ça a été la cause de sa crucifixion parce qu'il avait blasphémé, il s'était pris pour Dieu et ainsi il avait causé le désordre dans la religion. Et les juifs ont soumis la cause de Jésus au gouverneur Pilate sous un prétexte qu'il s'était pris pour le roi. Mais la vraie raison, c'est qu'il était, c'était scandaleux religieusement ce qu'il faisait. Et c'était une hérésie, on pourrait dire un blasphème. Il se prenait pour Dieu. Et donc l'enjeu a bien été vu des juifs, c'est qu'il s'est pris pour Dieu. Et pour un juif, c'est impensable que Jésus soit Dieu. Parce que l'éternel, l'au-delà de tout visage, l'éternel ne peut pas être une créature. C'est un scandale pour un juif. Même si la foi le prépare, c'est une folie, un scandale. De la même manière, pour les Grecs, alors les Grecs avaient plein de divinités, et Paul, quand il voudra s'adresser à eux à Athènes, il parlera d'un dieu inconnu, voilà, qu'ils ne connaissent pas, mais c'est voilà, il veut présenter ce dieu. Alors il est habile, il remet pas en cause les autres dieux, mais en fait, il est en train de dire que le dieu inconnu, c'est le vrai dieu, quoi. Les autres, c'est des idoles. Mais il amène la chose tranquillement. Et là où ça va poser problème, c'est quand il va commencer à avoir un discours sur la résurrection de la chair. Parce que pour le monde grec, de la même manière, le corps, c'est pas terrible. La matière, le créé, c'est pas terrible. Ce qui est bien, c'est l'esprit. Platon, hein, on se rappelle la philosophie de Platon, le monde des idées, c'est au-delà. Faut sortir du corps. Donc, il y a cette idée que pour le monde grec, le corps, le terrestre, c'est pas terrible. C'est la matière. Le monde céleste, c'est le vrai monde. Donc, imaginez que Dieu, qui est dans le monde céleste, vienne dans la matière, impossible. Donc, c'est un scandale intellectuel aussi pour les Grecs. Donc on voit que le christianisme n'a pas été porté, dans le contexte où il est né, n'a pas été porté par cette idée. Ça prouve d'autant plus sa véracité, c'est qu'il a été véhiculé, il a continué à être véhiculé dans un contexte culturel qui n'était pas porteur. Et il a persévéré, il a perforé ce contexte, et il a gagné même. Il est allé partout, se rayonner. Donc on voit que là, soit il y a une vérité qu'on peut expérimenter, soit l'idée en soi d'un Dieu fait homme, ça tombe à l'eau. Mais ça n'a pas été pensé avant, et de fait le contexte où on était n'était pas porteur. Voilà. Je rappelle aussi que la question de la divinité de Jésus n'a pas été remise en cause dans les premiers siècles du christianisme. Ce qui était remis en cause, c'est le fait qu'il se soit incarné. Tandis que pour nous, l'inverse, aujourd'hui, nous qui sommes souvent dans un contexte athée, agnostique, que Jésus soit un maître de sagesse à l'égal de Bouddha, Socrate, voilà, Gandhi, très bien, qu'il a influencé la culture européenne, très bien, mais qu'il soit Dieu, voilà. La question que Jésus soit Dieu pose plus de problèmes qu'au début de l'histoire du christianisme, où c'était la question qu'il se soit fait homme. Donc on voit qu'il y a quelque chose de très original de le fait que Dieu se soit fait homme. Et donc il faut nous mesurer cela, que l'éternel, l'infini, le parfait, a accepté d'être temporel, fini et limité. Quand on prend au sérieux cette mesure, on peut être émerveillé. Hein, voilà. Quand par exemple vous prenez l'hostie, quand vous communiez à l'hostie, consacré, donc Jésus, vrai Dieu, vrai homme, vous avez dans votre main le créateur du Big Bang. Faut mesurer le décalage entre la petite hostie et la réalité de ce que c'est. Vous voyez, il y a une espèce de... l'intelligence humaine est dépassée, et quand elle mesure au sérieux cela, elle est éblouie. Une espèce de disproportion entre ce qu'on est en train de vivre. Ça me rappelle ce que disait... ce témoignage que rappelait un homme qui parlait à un prêtre et qui disait « Comment ça, le Tout-Puissant a eu des petites mains ? L'Éternel a eu des petites mains et a fait des petits sourires d'enfant. L'Éternel !» C'est fou. Vous voyez, donc il faut trouver des éléments dans l'incarnation qui nous rappellent cet émerveillement. Voilà, parce que c'est ce paradoxe, ces antagonismes qui font que c'est ça le génie du christianisme. Et pourtant tout est tenu, on tient tout. Alors on va rentrer dedans maintenant. Pourquoi le Verbe s'est fait chair? L'Église, dans son catéchisme de l'Église catholique, donc je rajouterai rien à ce que dit l'Église parce que je n'ai pas à dire autre chose que la foi de l'Église, mais nous rappelle qu'il y a quatre raisons pour lesquelles le Christ s'est incarné. Et il est bon de les savoir, de se les rappeler, ou de se les rappeler, au moment de Noël. La première raison, c'est que le Christ s'est fait chair pour nous sauver en nous réconciliant avec Dieu. Donc je disais, le Verbe s'est fait chair pour nous sauver en nous réconciliant avec Dieu. L'enjeu que Dieu s'incarne, c'est pour le salut. Donc si je dis ça, c'est pas une option féerique, du genre, il aurait pu faire autrement. C'est sympa comme conte, voilà, même si ça s'est passé, c'est pas mal. Non, c'est pas que c'est pas mal, ce n'est pas non plus une option, c'était absolument nécessaire. Pas d'incarnation, pas de Dieu fait homme, pas de Dieu fait homme, pas de Dieu qui prend nos péchés, pas de Dieu qui prend nos péchés, pas de sacrifice à la croix, pas de sacrifice à la croix, pas de pardon, pas de pardon, pas de salut, pas de salut, pas de grâce possible, pas de grâce possible, le ciel n'est jamais ouvert pour l'être humain. Le ciel n'est jamais ouvert pour l'être humain. Donc il y a un vrai enjeu que Dieu se fasse homme, voilà. Parce que le jardin d'Éden a été fermé depuis le péché des origines, et que l'homme reste pécheur. Et malgré la loi qui est un pédagogue, dans l'Ancien Testament, la loi est un pédagogue, Dieu va parler par les prophètes, etc. Dieu prépare le terrain. Toujours est-il que le peuple n'a pas un plein accès à Dieu. Les rites de purification que vivent les Juifs ne sont pas des rites efficaces. Ils ont une certaine valeur de piété, mais ils ne sont pas proprement dit pardonnés de leurs péchés. Parce que sans arrêt, ils réitèrent ces rites. Donc on voit bien que les sacrifices ne marchent pas. Et donc il va falloir quelqu'un qui soit le sacrifié pour que ça marche. Et pour qu'il y ait le vrai sacrifice, ce sacrifice va permettre de faire la vraie porte d'entrée, de restituer la porte d'entrée qui a été perdue à la grâce et du coup à l'accès à Dieu. Et ça c'est le Verbe fait chair. Si Jésus ne s'était pas incarné, il n'y aurait pas de salut possible. Vous voyez, c'est pas une option, c'est absolument nécessaire. Et on va voir que dans cette incarnation, il y a déjà la dimension de l'abaissement de Dieu et de la souffrance. La souffrance de Jésus commence déjà par son incarnation. Je vais prendre un exemple. Si vous dites par exemple que vous imaginez un grand milliardaire qui invite tous ses amis à table et au moment de fêter son anniversaire, il dit « faut que je sorte, faut que j'aille chercher les personnes dans la rue là qui sont en train de se tabasser dessus, faut qu'elles participent à mon anniversaire ». Le majordome dirait « ben non, monsieur, vous n'allez pas y aller, si, je sors, mais en plus je vais enlever ma veste, je vais pas y aller comme ça ». Ben monsieur, c'est pas digne de vous. Si, je vais y aller. Je vais y aller. Et puis il sort. Alors le majordome dit, mais vous voulez que je vous emmène en voiture? Non, je vais y aller. Mais il pleut là. Mais j'y vais quand même. Mais vous êtes dans la boue là. Mais non, je dois y aller. Alors il sort. Il voit la personne très au loin. Et quand il marche, personne ne le reconnaît. Parce qu'effectivement, il a plus le look du milliardaire. Alors du coup, on se fait cracher dessus. On se moque de lui. On le tape, etc. Puis il arrive arriver à la personne. Il la prend avec lui. Franchement, quelqu'un qui ferait ça aujourd'hui, je juge personne, mais un grand puissant ferait ça de ce monde, ou un milliardaire en chef d'entreprise, on serait admiratif. C'est pas mal. On dirait, il s'est sacrément abaissé, il est allé super loin. On admirerait cela. Bon, mais Dieu a fait beaucoup plus. Le fait qu'il se soit incarné, c'est un abaissement beaucoup plus grand que le milliardaire qui va chercher le clochard. C'est un abaissement infini. On appelle ça, le terme théologique, c'est la kénose, l'abaissement de Dieu. Et cet abaissement, c'est un acte d'humilité où Dieu ne retient pas, comme dirait dans Philippiens 2, Paul, ne retient pas sa condition divine, mais s'anéantit. Il fait une kénose, il s'abaisse totalement, il se sacrifie quelque part, il se donne pour rejoindre l'homme. Donc il y a une dimension d'abaissement, de sacrificiel. Voilà, il y a une dimension de renoncement. Donc dans l'incarnation de Dieu, du Verbe fait chair, il s'offre à nous déjà en s'incarnant, pour nous sauver. Voilà. Donc ça, c'est très important. Pas de salut, pas d'incarnation. Dieu le fait en s'abaissant. La deuxième raison pourquoi le Verbe se fait chair, c'est parce que c'est pour que nous puissions le connaître. Pour que nous puissions le connaître tel qu'il est, connaître l'amour de Dieu tel qu'elle est réellement. Voilà. La connaissance de Dieu est partielle. La connaissance de Dieu est partielle. Et rappelons-nous ce qu'a dit l'épître, le prologue de Saint Jean, chapitre 1, verset 18. Dieu, personne ne l'a jamais vu, le Fils unique qui est dans le sein du Père, c'est lui qui a conduit à le connaître. Dieu, personne ne l'a jamais vu. Ça veut dire qu'il y a un mystère, Dieu nous dépasse. Dieu a dit quelque chose de lui dans l'Ancien Testament. Dieu a dit quelque chose de sa loi. Dieu a dit quelque chose de son alliance. Dieu a montré quelque chose de son amour. Mais on peut se tromper, on peut être idolâtre. Et on peut se tromper, et cette connaissance est nécessaire. Le prophète Osée dira « Mon peuple meurt faute de connaissances ». C'est-à-dire que ce n'est pas des connaissances en mode érudit. Ce n'est pas des choses qu'on apprend dans des livres de théologie pour faire savant et des discussions de salon. L'enjeu, c'est connaître Dieu pour être sauvé. Connaître Dieu pour se connaître soi-même dans la lumière du vrai Dieu, pour connaître sa destinée, pour connaître le sens de sa vie, et parce que c'est une connaissance vitale, j'en ai besoin. Donc Dieu prend au sérieux cela, et du coup, il s'incarne pour parler lui-même. Quand Dieu s'incarne, il ne va plus parler avec des prophètes qui ont dit des choses vraies sur lui, mais pas des choses complètes. Là, Dieu parle complètement parce qu'il parle lui-même. Dans les paroles de Jésus, c'est Dieu qui parle directement. Directement. Et il nous donne du coup une connaissance sûre, certaine et totale. Connaissance absolument nécessaire qui nous permet de nous connaître, de connaître notre destinée et de connaître pleinement qui est le vrai Dieu. Parce que Jésus parle, ainsi est connue la Trinité, est connue la destinée de l'homme. Voyez ? Donc si le Verbe ne s'était pas incarné, on n'avait pas de salut, mais on ne connaîtrait pas vraiment qui est l'homme, ni qui est vraiment Dieu jusqu'au bout. Voyez ? Donc c'était nécessaire pour ces deux raisons. Salut et connaissance. Mais ce n'est pas fini. Le Verbe s'est fait chair pour une troisième raison. Et c'est aussi important. Pour être notre modèle de sainteté. Voyez-vous, depuis le péché originel, l'homme est abîmé, je l'ai déjà dit, dans son relationnel, dans son intelligence, dans sa vie spirituelle, dans son union, dans sa relation avec les autres, et dans son union avec Dieu. Voilà, son image qu'il a de Dieu est abîmée. Donc du coup, on peut dire que tous les êtres humains sont des cabossés, de par le péché originel. Après, ils peuvent encore plus se cabosser parce qu'ils sont tous enclins à pécher. Alors on peut se décabosser un peu, ça s'appelle « on travaille avec la grâce », mais toujours est-il, on est un peu des cabossés ou des fissurés de naissance. Et donc, quelque part, on ne peut pas dire que nous, nous sommes des vrais hommes. Au sens de, quel est le modèle de l'humanité, vraiment, inaltéré, la vraie image qui représente vraiment ce qu'est un homme, vraiment ce qu'est l'humanité, c'est pas nous. Nous ne sommes une humanité un petit peu déclinante, qui a été abîmée. Et dans l'histoire de l'homme, même s'il y a des héros, des saints, ce n'est pas absolument la référence de ce qu'est l'homme. Il n'y en a pas en fait depuis le péché originel, ça a été abîmé, il n'y en a pas. Et bien Jésus s'incarnant, Dieu s'incarnant, il montre ce qu'est un homme, ce qu'est un être humain dans sa relation à Dieu, dans sa relation aux autres, etc. Mais de manière totale, parce qu'il est sans péché, il va pouvoir montrer ce qu'est vraiment un être humain, comme il doit fonctionner normalement. Et donc ainsi, il va être notre modèle. Et tout le christianisme, dont le fameux livre de spiritualité qui a fait beaucoup de saints, c'est l'imitation de Jésus-Christ, va consister à imiter Jésus, à imiter le Verbe fait chair pour soi-même devenir pleinement homme, pleinement femme. C'est-à-dire que notre modèle d'humanité, tel que Dieu nous le donne, le mystère de l'humanité s'éclaire en Jésus-Christ, dans le Verbe fait chair, et si nous l'imitons, nous devenons pleinement humains. Voilà. Et du coup, j'en avais déjà parlé pendant le chapelet, nous pouvons, et j'en reparlerai tout à l'heure, c'est, nous pouvons méditer la vie de Jésus, les fameux mystères de la vie de Jésus, qui vont éclairer notre humanité. La vie de Jésus, dès sa conception, jusqu'à sa mort, et sa résurrection même, vont éclairer notre humanité. Voilà, ce qu'il a vécu va éclairer ma vie, va permettre pour moi de façonner de manière juste mon humanité, sans erreur. Voyez, ça c'est important. Et si nous ne l'avions pas, si nous n'avons pas eu l'incarnation de Dieu, que serait-il passé? On n'aurait jamais pu trouver dans l'histoire de l'humanité un vrai modèle d'humanité. Ça serait été toujours un peu à tâtons. On aurait des choses bien, par-ci, par-là, mais de manière complète, non, pas selon Dieu. Voyez. Et des fois, dans certains modèles d'humanité, on a des choses très bonnes, mais on sent qu'il y a des choses qui sont erronées. Et bien, en Jésus-Christ, on aura absolument tout pour tous les temps. C'est pas mal. La quatrième raison, et c'est la raison là, peut-être qu'on pense le moins, c'est que le Verbe s'est fait chair pour nous rendre participants de la nature divine. Le Verbe s'est fait chair pour nous rendre participants de la nature divine. Vous avez cette parole dans la deuxième épître de Pierre, au chapitre 1, verset 4. Le Verbe s'est fait chair pour nous rendre participants de la nature divine. Voilà. Dieu s'est fait homme pour que l'homme soit Dieu. Dieu s'est fait homme pour que l'homme soit Dieu. C'est-à-dire que nous rentrions dans la gloire de Dieu. Notre destinée à chacun, à chacune, c'est d'entrer dans la Trinité. Voilà. De pas simplement la regarder, de l'adorer. On l'adorera toujours, parce que Dieu est Dieu et nous créatures. Mais on va rentrer dans la Trinité par Jésus, adopté par Jésus, en tant que fils et fille, adopté dans le Fils éternel, parce qu'il s'est fait chair. Eh bien, mais c'est ce que dit d'ailleurs le prologue de Saint Jean, on l'a lu tout à l'heure. Mais tous ceux qui croient en son nom, il leur a donné de pouvoir devenir enfants de Dieu. Voilà, ils ne sont pas nés de la chair et de sang, ils sont nés de Dieu. C'est dans le prologue de Saint Jean. Et bien ça veut dire exactement participer à la nature divine. Notre destinée est plus grande que simplement une dimension humaine. On est fait pour Dieu, on est fait pour être dans la gloire de Dieu. Et quand vous voyez des saints, vous voyez quelque chose de la divinisation qui est en train de se faire. C'est-à-dire rentrer dans la gloire, un saisissement dans l'Esprit Saint qui fait que la personne, on a l'impression qu'elle est en Dieu quand elle parle, quand elle regarde, ça peut même parfois rayonner, et même des fois quand les saints sont morts, ben il semblerait que le corps reste intact. Donc on voit qu'il y a des phénomènes de divinisation qui commencent. Voilà, c'est des petits signes, il y a quelque chose. Et ben ça, c'est permis parce que le Verbe s'est fait chair. Dieu veut nous diviniser, donc il nous reprend là où on en est. Dans notre base d'humanité, il fait tout le chemin pour nous saisir, voilà. Et tout ce qu'il n'aura pas saisi, Dieu, Jésus-Christ en s'incarnant, saisit toute l'histoire de l'humanité et tout l'homme, toutes ses dimensions. Et d'ailleurs, tout ce qui n'est pas saisi par Jésus n'est pas sauvé. Donc il faut mieux qu'il saisisse tout, parce que sinon c'est raté pour nous. Donc il y a un vrai enjeu, donc on voit bien, il saisit tout en vue de tout sauver, de tout faire connaître, d'être le modèle et de tout diviniser. Voilà les buts de l'incarnation, ce qui me semble important. Alors maintenant, on va parler de ce fameux mot, incarnation, qui est véritablement un mot important comme l'est incarnation, rédemption, résurrection, sanctification, etc. Le christianisme, je disais, c'est la religion de Dieu fait homme, et c'est quelque chose qui doit nous éblouir, nous émerveiller, et en même temps, pour des non-croyants ou des croyants d'autres religions, comme musulmans, juifs, etc., ça pose vraiment question. Voilà. Alors, le mot incarnation, vous ne l'avez pas dit de cette manière-là, mais c'est la même idée, en Saint Jean, chapitre 1, verset 14, « Et le Verbe s'est fait chair ». Voilà, le mot « chair » en grec, c'est « sarx ». Ça veut dire « il s'est fait viande », quoi. Il s'est fait viande. Ce texte-là, du Verbe qui s'est fait chair, nous le proclamons le jour de Noël, de la Nativité, le 25 décembre. La liturgie du jour de Noël, de la Nativité, c'est le prologue de Saint Jean. Et justement, cette idée que Dieu se soit fait chair, une chair réelle, c'est le mystère de l'incarnation. Il est rentré dans la carne, incarne, dans la carne, voilà. Ça, c'est important. Et c'est très important parce que, vous voyez, l'épître de Saint Jean, au chapitre 4, verset 2, dit la chose suivante. « À ceci, reconnaissez l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu dans la chair est de Dieu. » Une confession chrétienne, c'est quelqu'un qui reconnaît que Jésus-Christ est venu dans la chair, a été incarné. Voilà, Dieu s'est incarné. Vous voyez, des fois, on entend des gens, c'est pas un jugement, mais nous, prêtres, on accueille des gens pour les préparations baptême, mariage, on entend, bah oui, je prends Jésus-Christ, c'est un maître de sagesse, c'est peut-être l'élu de Dieu, c'est quelque chose comme ça, ou alors autre chose. Et à un moment donné, il faut leur dire, non, c'est Dieu qui s'est fait homme, Dieu qui s'est incarné, qui a pris de la chair. Et on voit bien que des fois, ils sont un peu étonnés, parce qu'en fait, c'est cela, c'est un peu émerveillé. C'est comment dire, ça semble au-delà de ce qu'on pourrait penser, pourtant... Saint Jean nous rappelle « À ceci reconnaissez l'Esprit de Dieu, tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu dans la chair est de Dieu. » Voilà. Jésus-Christ venu dans la chair est vrai Dieu, vrai homme. C'est ce que nous disons dans le credo. Alors, on va voir que ce n'est pas un demi-dieu et ce n'est pas un demi-homme. Parce que parfois, on a voulu faire de Jésus-Christ notre copain. On a voulu faire de Jésus-Christ notre copain, parce qu'il est comme nous, alors ben voilà, il faut qu'il souffre comme nous, il faut qu'il doute comme nous, on va revenir à ça, qu'il doute comme nous, et à la rigueur certains disaient, mais peut-être qu'il a péché. Voilà. Ou alors, ben Jésus c'est Dieu, mais alors il n'a pas pu vivre une vraie vie comme nous, il a fait semblant, non, il n'a pas vraiment souffert parce qu'il est Dieu, il ne peut pas vraiment connaître ce que j'ai connu. Voilà. Et en fait, Jésus est pleinement Dieu, et a vraiment vécu ce que j'ai vécu, voire en plus. Voilà, donc vrai Dieu, vrai homme. Je disais tout à l'heure que les premières hérésies chrétiennes venaient qu'on a douté de l'humanité de Jésus. Aujourd'hui, on doute de la divinité de Jésus. C'est que simplement le revers de la médaille. Et pour nous, il nous faut tenir les deux. Tenir les deux. Alors, rentrons un petit peu dans les détails. Quand nous disons que Jésus-Christ est vrai Dieu, vrai homme, qu'est-ce que nous disons? Nous disons d'abord, premièrement, vrai Dieu, qu'il est le Fils éternel qui a toujours existé, qu'il n'a pas été créé. C'est pour ça que dans notre credo, nous disons « engendré, non pas créé », qu'il n'a pas de début, que le Père éternel sans cesse l'engendre. Parce que de toute éternité, Dieu le Père l'engendre. Parce que c'est son mouvement de Père vers son Fils. Il engendre. Et le Fils se reçoit sans cesse du Père et se redonne au Père. Et nous entendons cette voix éternelle qui parle dans l'événement qui est le baptême public de Jésus, où la voix du Père dit « Tu es mon Fils, aujourd'hui je t'ai engendré ». Ce sont des paroles datées, historiquement, mais c'est aussi une parole éternelle de Dieu le Père qui parle à Dieu le Fils. C'est une parole qui a pouvoir éternel. Parce que Dieu, sans arrêt, engendre son Fils. Donc ça, Jésus n'a pas de commencement, pas de fin, il est en mode fils. Vous voyez, nous, on est en mode être humain, on commence par mode fils, on grandit, on se marie, et puis à la fin, on devient en mode grand-parent. Voilà, je caricature, on est toujours enfant, mais vous voyez, on a des transitions. Jésus, il est profondément fils. Et vous voyez, nous, on est être humain, et après, on nous met un nom. Je m'appelle Jean-Marie, etc. Donc on met un nom. Mais on voit bien que le nom ne me définit pas. Je suis être humain, masculin, d'accord ? Jésus, il est fils. C'est-à-dire, c'est ce qu'il est. C'est son mode d'agir, c'est son identité, et il a toujours été comme ça, et il ne changera jamais. Donc il a toujours existé, et on peut dire c'est le Fils éternel, le Fils unique, ou comme le nomme le Saint Jean, de manière révélée, c'est le Verbe. C'est celui, c'est la parole de Dieu. Voilà. Si on imaginait Dieu qui parle, Dieu parle, et en parlant, une parole sort de sa bouche, et c'est en même temps qu'il parle, qu'il pense, c'est le Verbe qui s'exprime, c'est Jésus qui s'exprime. Et dans cette parole, il y a une intensité, et cette intensité, c'est l'Esprit Saint. Voyez ? C'est-à-dire qu'en même temps que la parole est donnée, il y a une intensité, il y a un cri, il y a un gémissement, il y a une supplication, il y a une joie, et bien c'est l'Esprit Saint. Il n'y a pas de mot sans souffle. Il n'y a pas de Verbe sans Esprit. Il n'y a pas de Jésus donné sans Esprit Saint en même temps. Mais c'est sans arrêt ce mouvement-là qui est dans le Dieu. Voilà. Donc ça, c'est le Fils éternel. 100% Dieu. Absolument. Créateur de tout, qui connaît tout, etc. Et ce Verbe-là se fait chair. Alors, il ne fait pas semblant. Du genre, je suis d'en haut et je me prends un corps en mode marionnette télécommande, je le conduis de loin. Il y en a qui ont pensé ça. C'est pas vraiment Dieu, il a un peu menti, hein. Il s'est pas vraiment fait homme, quoi, je veux dire. Il télécommande une nature humaine, mais bon, il sent pas vraiment les coups. Non, non. Il s'est pris une vraie âme et un vrai corps. Donc quand vous avez Jésus dans l'Eucharistie, vous avez quoi? Vous avez toute la divinité, le Créateur, le Fils éternel. Vous avez Jésus homme, c'est-à-dire une vraie âme et un vrai corps. Donc on dit dans le Saint-Sacrement, je crois en toute ta divinité, en ton humanité, en ton âme et en ton corps. On a tout ça, parce que c'est ça l'incarnation. S'il n'avait pas eu d'âme et s'il n'avait pas eu de corps, ça serait une sorte de pantin, ou un faux homme. Donc il a bien eu tout ça. Et donc nous disons que Jésus-Christ est vrai Dieu et vrai homme. Et quand nous disons cela, nous disons que c'est une seule personne. Voilà. Le concile d'Éphèse va définir que Marie, en 431, est devenue la mère de Dieu en concevant Jésus dans son humanité. Mais quand nous avons dit ça, l'Église a voulu protéger en montrant que Jésus, on ne pouvait pas séparer son humanité de sa divinité, que c'était bien une même personne. Marie n'est pas la mère de Dieu, au sens fort du terme, Dieu n'a pas de mère. Mais si nous disons qu'elle est la mère de Dieu, c'est parce qu'elle est la mère de Jésus selon son humanité, et parce qu'elle est la mère de Jésus selon son humanité, elle est aussi de sa divinité, parce que tout est lié en Jésus. Une fois que Dieu s'est incarné, l'humanité et la divinité sont liées. Vous voyez ? Et on voit que l'humanité de Jésus, ou la divinité, n'écrase pas l'humanité. Il y a une union sans confusion. Il n'y a pas une sorte de mélange cocktail, et puis ça fait un truc un peu altéré, du genre, ben depuis qu'il est eu, il s'est incarné, il est un peu moins fort. Avant, il était très fort, mais maintenant, il a perdu un peu de pouvoir, quoi. Parce que, voilà, il a perdu, quoi. Ben non, 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 il est resté très fort. Mais en même temps, il est vrai homme, voilà, il n'est pas surdopé, il est fatigué par moments. Jean 4, il parle à la Samaritaine, il a besoin de boire, il est fatigué. Donc on voit bien, les deux sont liés. Voilà, il y a une union des deux. Sans confusion, mais bien unis. Donc qu'est-ce qu'on appelle cela ? On dit qu'il y a une personne. Jésus, c'est une personne et deux natures. Sans confusion, avec distinction, mais sans confusion. Et bien unis, la nature humaine et la nature divine. Voilà. En Jésus, il dira à l'Église, il y a deux volontés. Alors il n'est pas schizophrène, rassurez-vous. Il y a vraiment une volonté d'homme. Parce que s'il n'y avait pas une volonté d'homme, ce serait un pantin. Il y a vraiment une volonté d'homme, et il y a aussi une volonté divine, parce qu'il est vraiment le Fils éternel. Et cette volonté divine et cette volonté humaine sont étroitement liées. C'est-à-dire que la volonté humaine veut toujours ce que veut la volonté divine. Voilà. Elle est assujettie, elle est à la volonté divine. Voilà. Dieu se sert de son humanité, le Fils éternel se sert de son humanité pour opérer les miracles, pour parler au nom du Père. Voilà. Mais avec une vraie humanité non diminuée. Et qu'est-ce que ça veut dire si nous disons cela ? Ça veut dire d'abord que Jésus n'a pas la foi, comme on a pu croire à un moment donné. Que Jésus ne doute pas, comme on a pu croire à un moment donné. Parce que voilà, il faut qu'il doute, parce que s'il ne doute pas, il n'est pas comme nous, etc. Il faut qu'il ait la foi, parce que s'il n'a pas la foi, il n'est pas comme nous. Oui, mais non. C'est le Fils éternel qui est dans le corps, qui est dans Jésus. Jésus, dans l'homme Jésus. Et ce Fils éternel s'exprime. Et ce Fils éternel n'a pas besoin d'avoir la foi, parce que ce Fils éternel voit le Père en permanence. D'ailleurs, il est toujours avec lui. Donc Jésus a une sagesse éternelle, parce qu'il est le Fils éternel. D'ailleurs, le nom de Jésus, il l'a depuis qu'il est incarné. Et ce nom de Jésus, nous le rappelons, ça veut dire « Dieu sauve ». En s'incarnant, il montre sa mission de sauveur. Donc c'est pour ça de dire « Jésus n'a pas la foi ». Quand on vous dit que Jésus a la foi, c'est une hérésie. L'Église a rappelé que le Christ n'a pas la foi et que même le Christ voit le Fils éternel, voit le Père éternel en permanence. C'est ce qu'on appelle la vision béatifique. Le Fils éternel voyait le Père éternel même sur la croix. Et pourtant, mystérieusement, dans toute son âme humaine, dans tout son corps, les ténèbres du mal l'emplissaient. Ce qui fait qu'il pouvait compatir et dire « Mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Mais pourtant, c'est bien le Fils éternel, uni au Père éternel, qui dit cela. Ce n'est pas simplement un homme, voyez. Et c'est là où on voit, il ne faut pas humaniser Jésus d'une mauvaise manière. Il est vraiment Dieu fait homme, il est comme nous, mais il est un mystère. Pourquoi il est un mystère ? Parce que, voyez-vous, Dieu connaît tout. Le Fils éternel connaît tout. Il n'avait pas besoin d'apprendre les théorèmes quantiques d'Einstein. Il les connaissait avant, il les a créés. Voilà, j'invente un truc que moi je ne connais même pas. Mais il les connaissait. Et pourtant, ce Fils éternel a accepté en son humanité d'apprendre des choses. Et oui, en la finale de Saint-Luc, chapitre 2, on dit qu'il était soumis à ses parents en rentrant du temple et qu'il apprenait des choses et qu'il grandissait en sagesse et en intelligence. Donc vous imaginez le Créateur qui s'est mis à apprendre de la grammaire, à apprendre les psaumes. Ça, on voit bien que dans son humanité, Dieu n'a pas triché, a voulu apprendre. Mais pourtant, tout ce qu'il veut dire, en tant que Fils éternel, à tout moment, il peut le dire. Parce qu'il peut dire, il perfore les cœurs. En Jean 2, il nous est dit que Jésus n'avait pas besoin d'apprendre sur les hommes, il connaissait d'avance ce qu'il y a dans le cœur de l'homme. Oui, mais c'est le Fils éternel qui parle, voyez. Il sait quand son heure est venue, il sait quand son heure n'est pas venue. Il est en connexion directe. Voilà. Donc, il y a eu même à une époque, dans les années 70-80, il y a eu des choses, est-ce que Jésus avait conscience d'être Dieu ? Ben, parfaitement, parce qu'il est Dieu. Par pitié, s'il n'a pas conscience d'être Dieu, nous n'avons aucune garantie que ce qu'il dit vient de Dieu, parce qu'il y a un degré d'incertitude énorme. Non, non, c'est vraiment Dieu qui parle, vous voyez. Donc, Jésus ne doute pas, Jésus n'a pas la foi. Il est en connexion directe. Par contre, il encaisse les coups. Et c'est ça le mystère. Dieu apprend dans son humanité. Dieu encaisse les coups. Et donc, quelque part, on voit que Jésus, comment il pouvait à la fois être éternel, Fils éternel, et en même temps, dans son humanité, avoir une progressivité de connaissance ou d'encaisser et accepter d'être tenté sans jamais y acquiescer, parce qu'il n'a jamais péché. Mais accepter d'être tenté, ça, c'est un mystère. Et vous voyez que cela, ça nous dépasse. Et ça, c'est le mystère de la conscience du Christ. Quelque chose qui est absolument insondable pour vous et moi, qui relève que de Dieu. Que Dieu est à la fois c'est tout, absolument immuable, absolument saint, et qui accepte d'être pénétré, touché par le péché. Mystérieux. Ça se fait dans l'incarnation du Verbe. Voilà. Ça, c'est le propre du Dieu fait homme. Alors je continue. Je disais que Jésus a une vraie volonté, a deux volontés, sa volonté humaine, sa volonté divine, une personne bien unie, nature humaine, nature divine, les deux fonctionnent ensemble, le divin, l'humain subordonné au divin, mais le tout bien uni, sans tricher, c'est pas un pantin, c'est pas un surhomme, etc. Et bien Jésus a bien un cœur. Et quand le cœur de Jésus bat, c'est aussi le cœur divin qui bat. Quand vous allez à l'Eucharistie, si on avait un oscilloscope spirituel, on verrait des battements de cœur. C'est le cœur de Dieu qui bat. Et quand le cœur humain de Jésus bat, c'est en même temps son cœur divin. C'est ses pulsations d'amour. Voilà. L'Église a des choses très fortes là-dessus. Je cite ce qu'elle dit. Jésus nous a, à tous et à chacun, connu et aimé durant sa vie, son agonie et sa passion. Il s'est livré pour chacun de nous. Le Fils de Dieu m'a aimé et s'est livré pour moi, a dit Paul dans les Galates, chapitre 2, verset 20. Il nous a tous aimés d'un cœur humain, pour cette raison. Le cœur sacré de Jésus, transpercé par nos péchés et pour notre salut, est considéré comme le signe et le symbole imminent de cet amour que le divin Rédempteur porte sans cesse au Père éternel et à tous les hommes sans exception. Voilà, quelque chose qui a été uni dans l'incarnation de Jésus, et cet amour humain, il le porte en lui devant le Père. C'est uni en lui maintenant pour toujours, et quand Jésus aime, il aime en même temps, c'est le Fils éternel qui aime. Donc vous voyez, c'est très beau parce que le Fils éternel pose des actes dans son humanité. Mais c'est pas simplement en mode, c'est que l'humanité de Jésus, donc c'est une petite limite. Ça a une valeur infinie parce que c'est le Fils éternel qui les pose. Vous voyez, donc les actes sont plus que, ont une puissance, une intensité bien plus grande que les nôtres. C'est des actes éternels. Vous voyez, donc je reviens maintenant sur ces fameux mystères. Jésus qui s'incarne, Jésus qui vit une vie de fœtus, de petit enfant, d'adolescent, d'adulte, de charpentier, de prêcheur, et jusqu'à la mort sur la croix et la résurrection. Cette petite vie, qui a une vie assez grande par rapport à d'autres, une trentaine et quelques années, en réalité là-dedans, il y a toute la synthèse de la vie humaine. Ce qui fait qu'il n'a pas eu besoin d'être ingénieur, d'être facteur, d'avoir 80 ans, d'aller au Nicaragua, etc. Tout ce qu'il a vécu dans ces trentaines d'années, c'est la synthèse de toute la vie d'un homme, d'un être humain. Et du coup, il l'a vécu, véritablement sans tricher, pour lui. Et en même temps, il l'a vécu pour nous, pour être notre modèle. Mais plus que ça, comme c'est le Fils éternel qui les a vécus, ça a une valeur d'éternité. Et du coup, il a vécu ma vie, Jésus. Non pas la mienne, mais il a vécu mon enfance. Il a vécu mon adolescence. Il a vécu mes épreuves. Il a vécu ma passion. Il a vécu par avance mon agonie. Il m'a préparé pour ma résurrection. Parce que le mystère de Jésus, c'est le Fils éternel qui, en s'incarnant, a voulu partager ma propre vie. Et du coup, quand je contemple les mystères de la vie de Jésus, quelque part, je peux, moi aussi, être rejoint dans ma vie. Parce que c'est pas daté, c'est maintenant. Le Verbe s'est fait chair et ça a un impact sur toutes les vies de chacun. Vous voyez, je dis ça à propos du chapelet et vous voyez l'importance. Alors que le Seigneur nous bénisse et qu'il nous accorde la grâce de méditer ce mystère. Amen.